Les mouvements non indépendantistes ont commencé à travailler sur une organisation fédérale de la Nouvelle-Calédonie. C'est ce qu'a notamment déclaré ce midi le député de la première circonscription, Nicolas Metzdorf. Il était l'invité du magazine Transparence. Des allégations graves, factuellement inexactes, le haut-commissaire Louis Lefranc a réagi dans un communiqué aux déclarations de quatre pseudo-rapporteurs spéciaux de l'ONU sur la situation de la Nouvelle-Calédonie. L'atelier de maintenance automobile du lycée Jules Garnier incendié ce midi. Le feu a heureusement été rapidement circonscrit par les pompiers. Un jeune homme de 23 ans, originaire de Saint-Louis, a été mis en examen et placé en détention provisoire pour 3 carjackings. Du renfort médical pour les habitants du sud du Mont-d'Or, un médecin et une infirmière de la Sécurité civile nationale vont assumer une permanence le week-end au centre médical de la Corniche. Et puis le centre culturel du Mont-d'Or reprend sa saison culturelle demain avec un spectacle. Ce week-end marque aussi le début des soldes et puis on retrouvera notre agenda sportif à la fin de ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Nicolas Metzdorf demande solennellement à l'UNI Palika de sortir du FLNKS ou d'exclure l'Union calédonienne du FLNKS. C'est l'une des déclarations que l'on retient du député de la première circonscription. Il était ce midi l'invité d'Elisabeth Noir de le magazine Transparence, Jean-François Baudin.
Trois mois après le déclenchement des violences insurrectionnelles par la CCAT, Nicolas Metzdorf estime que la situation n'est pas satisfaisante. Pour lui, on est loin d'un retour à la normale. Le bilan sur le maintien de l'ordre est mauvais et dans le domaine économique et sociale, les aides de l'État sont rares et médiocres. Le député de la première circonscription relève deux problèmes pour permettre le retour dans l'ordre public.
Il y a le rapport de la France au maintien de l'ordre. Clairement, la France se revendique être un État de droit, mais selon les États de droit, le rapport à l'ordre n'est pas le même. Les États-Unis ou l'Australie sont des États de droit. Et pourtant, je pense que leur façon d'intervenir est différente. Et je crois aussi qu'on n'est pas face à du maintien de l'ordre partout. C'est-à-dire que la tribu de Saint-Louis, c'est plutôt une guérilla semi-urbaine, où on demande à des gendarmes d'intervenir face à des gens qui veulent les tuer. Et donc, ce n'est pas évident non plus, là, de répondre avec les moyens de répression habituels, de manifestations ou même d'émeutes. Donc, ma critique, elle n'est pas envers les forces de l'ordre qui font un travail magnifique, que je salue. Il y a quand même 400 aujourd'hui forces de l'ordre blessées en Nouvelle-Calédonie depuis le début des émeutes. Moi qui prends l'avion régulièrement, je vois toujours les policiers et les gendarmes blessés être rapatriés en métropole pour être soignés. La dernière fois, j'étais dans l'avion avec une femme gendarme qui était en fauteuil roulant. Donc je les remercierai jamais assez du travail qu'ils font pour la Nouvelle-Calédonie et du sacrifice qu'ils effectuent. Ma critique, elle s'adresse bien évidemment envers les décisions qui sont prises en haut lieu et les rapports qu'ont ces décideurs, comme je le disais, au maintien de l'ordre. Je crois que cette situation n'existerait pas si nous étions en métropole.
Et Nicolas Metzdorf relève que la Calédonie cumule les mauvais timings entre les Jeux Olympiques, les vacances métropolitaines et la crise politique. Ce qu'il faut, dit-il, c'est l'union sacrée et c'est ce qui justifie à ses yeux les démarches communes des quatre parlementaires calédoniens.
Si les parlementaires indépendantistes sont dans une logique de solliciter l'État, même si je trouve ça contradictoire par rapport à leur positionnement sur l'indépendance, mais que finalement ils vont aller convaincre leur groupe de gauche à l'Assemblée et au Sénat de voter des mesures en faveur de la Nouvelle-Calédonie, je ne vais pas cracher dedans, je le dis clairement. Donc il y a un moment donné, je mets de côté les divisions fortes que l'on a sur les questions locales pour que lorsqu'on va voter les budgets à l'Assemblée nationale et au Sénat, on puisse avoir un maximum de retombées pour la Nouvelle-Calédonie, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'a pas de majorité, personne n'a de majorité. Et finalement, entre Georges Naturel qui est au LR, moi qui suis dans la Macronie, et M. Rowi et M. Tshibaou qui sont dans les groupes de gauche, ça quadrille quand même l'ensemble des groupes du Sénat et de l'Assemblée nationale. Et donc, si l'État n'a pas de majorité pour faire voter ces textes, si les Calédoniens s'accordent pour faire voter des mesures pour la Nouvelle-Calédonie, je trouve que c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre.
Le député de la première circonscription reconnaît toutefois que l'attitude de l'Union calédonienne l'inquiète beaucoup. Et dans la perspective du prochain congrès du FLNKS, il demande solennellement à l'UNI de trancher.
Je crois que si l'Union calédonienne continue dans cette voie à légitimer la CCAT, il va falloir demander à l'UNI Palika de sortir du FLNKS ou d'exclure l'Union calédonienne du FLNKS. Mais on ne peut pas continuer avec un partenaire indépendantiste qui est en soutien d'actes terroristes et dont on subit les conséquences actuellement. Donc l'Union calédonienne, soit elle se reprend, soit il faudra que le mouvement indépendantiste en tire les conclusions. Et je crois savoir que le congrès du FLNKS, qui doit se dérouler fin du mois et début du mois de septembre, sera un congrès déterminant dans, finalement, la voie que va choisir, la voie politique, la doctrine politique que va choisir le FLNKS. Et moi, je demande solennellement à l'UNI Palika. Ils sont indépendantistes, mais j'ai entendu Jean-Pierre Djaïwo au congrès dire cette semaine qu'eux, ils étaient pour un combat digne, une indépendance digne avec tout le monde, etc. Il va falloir à un moment donné que si d'un côté on a l'UC qui revendique des actes terroristes et de l'autre côté l'UNI Palika qui revendique un combat digne, il va falloir qu'ils actent finalement qu'ils ne sont pas sur la même ligne politique. Et que donc, est-ce que le FLNKS a encore une légitimité à vivre avec autant de divergences politiques en son sein ?
Interrogé sur une éventuelle reprise des discussions en septembre à Paris, il confirme que c'est le calendrier que propose le président de la République, mais il se demande si les indépendantistes seront prêts et il annonce que les partisans du maintien dans la France se préparent. Ils sont réunis tous ensemble pour la première fois mercredi dernier entre les loyalistes, le rassemblement et diverses personnalités pour avancer sur une proposition commune.
On va dire que les mouvements officiels non-indépendantistes tendent vers une organisation de la Nouvelle-Calédonie qui soit fédérale. Parce qu'aujourd'hui, on considère que l'accord de Nouméa n'a pas fonctionné, qu'il a amené les débordements qu'on a connus. Moi, je suis opposé à toute partition de la Nouvelle-Calédonie, je l'ai dit. Je suis quelqu'un de brousse et je n'accepterai pas qu'on abandonne les gens du Nord à leur propre sort. Parce que quand on défend un pays, on défend tout le monde et on doit laisser personne sur le bord de la route. Et tant qu'il y aura finalement des gens à nous, j'ai envie d'utiliser cette expression, partout en Nouvelle-Calédonie, je les défendrai partout. Par contre, il y a des organisations qui permettent à des modèles de société de se construire en fonction des espaces géographiques et qui correspondent un petit peu au milieu dans lequel on vit. Et je crois qu'une organisation fédérale interne à la Nouvelle-Calédonie est souhaitable, je le dis avec beaucoup de sincérité.
Nicolas Metzorf prend l'exemple des organisations des États américains ou australiens. Il se dit persuadé que l'on doit pouvoir arriver à organiser la société calédonienne de manière à ce que chacun se sente en sécurité là où il est. Et il affirme que c'est une vraie démarche d'union qui est entreprise par les partisans du maintien dans la France.
Les débats se passent sereinement, les gens se respectent. Parce que je crois qu'on a tous pris la mesure de la gravité de la situation. C'est la première fois qu'on discute entre nous avec des positionnements différents et très tranchés, mais avec beaucoup de respect et beaucoup d'écoute de la part des uns et des autres chez les responsables non-indépendantistes, parce qu'on mesure la gravité de la situation et on mesure aussi la responsabilité qui est la nôtre à ce moment-là de l'histoire, c'est-à-dire de ne pas se tromper, de ne pas faire d'erreur et de faire en sorte de prendre la meilleure décision possible pour les Calédoniens. Donc finalement, si je dois résumer les choses, nous, les non-indépendantistes, on utilise le temps qui nous est donné, malheureusement, et par l'État et par les indépendantistes, par leur défaillance, pour se structurer, pour s'organiser et pour consolider notre démarche, parce qu'il faut qu'on arrive unis à la table des négociations.
Interrogé sur le report du Forum des îles du Pacifique, le député de la première circonscription regrette que les non-indépendantistes aient délaissé les relations internationales. Alors dit-il que nous avons des alliés dans la zone et il revient sur le communiqué publié par les pseudo-experts internationaux.
Parce que les indépendantistes, ils ont été chercher 2-3 amis à eux qui connaissent à l'ONU, leur ont prémâché un communiqué qu'ils ont signé. Mais ce n'est pas l'ONU qui s'exprime, c'est des personnalités de l'ONU. Mais ça démontre encore une fois qu'on a encore un petit retard sur les questions internationales et il va falloir le combler. En tant que parlementaire, j'en profite moi pour faire la tournée des popotes, mais on doit continuer de manière plus structurée et peut-être aussi, et on en a parlé lorsqu'on a fait cette grande réunion des non-indépendantistes, peut-être aussi nommer chez nous des élus responsables un petit peu des questions internationales. Vous voyez bien, hein, Michael Forest chez les indépendantistes, il est membre du gouvernement, mais c'est un membre du gouvernement fictif, hein, puisqu'il agit comme ministre des Affaires étrangères du FLNKS. Et donc, nous aussi, on doit avoir ces lobbyistes internationaux qui font le travail.
Concernant la crise politique nationale, Nicolas Metzorf estime urgent que le président de la République nomme un Premier ministre, notamment pour permettre que la situation de la Nouvelle-Calédonie soit traitée comme il se doit.
Une interview de Nicolas Metzorf qui sera rediffusée dans son intégralité dimanche soir, juste après notre édition de 17h45. Vous pouvez aussi la retrouver en audio et vidéo sur notre site internet. Le communiqué des pseudo-experts internationaux présentés comme des rapporteurs spéciaux de l'ONU continue de susciter des réactions. Ces experts indépendants se sont dit alarmés par la situation des Kanaks en Nouvelle-Calédonie. Et aujourd'hui, le haut-commissaire Louis Lefranc tient à rétablir les faits et l'ambassadrice de France dans le Pacifique, Véronique Roger-Lacan, a apporté des précisions, Jean-François.
Dans un communiqué, le haut-commissaire tient à réagir au communiqué des quatre rapporteurs spéciaux qui agissent en leur propre nom dans le cadre des procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Leur communiqué de presse contient des allégations graves qui sont factuellement inexactes et qui suscitent de nombreuses et sérieuses interrogations quant à leur fondement, écrit le haut-commissaire. Il indique que ce communiqué fait état de chiffres et d'informations erronées et que les allégations relatives aux arrestations arbitraires ou aux disparitions forcées, notamment, sont dénuées de tout fondement. Pour le représentant de l'État, ce communiqué entretient une confusion complète entre des manifestants pacifiques et des émeutiers armés. Louis Lefranc précise que sur l'emploi des forces de l'ordre, les exactions qui ont débuté le 13 mai dernier ont nécessité par leur ampleur un déploiement de plus en plus important afin de garantir la sécurité des Calédoniens sur l'ensemble du territoire. Il rappelle que 616 gendarmes et policiers ont été blessés et que 2 gendarmes ont été tués dont l'un âgé de 22 ans a été atteint d'une balle dans la tête. Louis Lefranc tient également à préciser que les forces armées ont essentiellement assuré un soutien logistique et d'aide à la population en assurant du transport de fret et de passagers, en réalisant des évacuations sanitaires et en assurant la surveillance des emprises portuaires et aéroportuaires. Les forces armées n'ont effectué aucune mission d'ordre public, insiste le haut-commissaire. Il réaffirme également, et je cite, qu'il n'y a jamais eu de milices armées en Nouvelle-Calédonie, mais que des voisins vigilants se sont organisés pour défendre leur quartier. En conclusion de cette mise au point, le haut-commissaire écrit que la France rappelle que la priorité porte sur la cessation complète des violences, le dialogue entre les différentes parties sur l'avenir en commun en Nouvelle-Calédonie dans le cadre de l'accord de Nouméa et la reconstruction des infrastructures publiques et privées de Nouvelle-Calédonie. Fin de citation de ce communiqué du haut-commissaire Louis Lefranc.
Et de son côté, l'ambassadrice de France dans le Pacifique apporte des éléments complémentaires.
Oui, Véronique Roger-Lacan qui souligne elle aussi que le communiqué des pseudo-experts contient des allégations graves qui sont factuellement inexactes et suscite de nombreuses et sérieuses interrogations sur leur fondement. Précise aussi que la France a été saisie par les procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme sur la situation en Nouvelle-Calédonie par voie écrite et qu'elle répondra dans les délais fixés conformément aux procédures qui régissent ces saisines, en particulier le principe du contradictoire. Elle souligne que ce communiqué ne tient pas compte de ses réactions à venir. La France rappelle que les positions exprimées par les titulaires des procédures spéciales ne représentent pas celles du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, ni celles du secrétariat des Nations Unies. L'ambassadrice de France pour le Pacifique ajoute que la France coopère pleinement avec les Nations Unies sur la Nouvelle-Calédonie dans le cadre du comité de décolonisation et de l'Assemblée Générale. La France rappelle que lors du troisième référendum sur l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, des experts des Nations Unies ont constaté sur le terrain la régularité du scrutin. Elle poursuivra cette coopération et continuera d'agir en toute transparence et en dialogue étroit avec la région et en particulier le Forum des îles du Pacifique. Fin de citation.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier, 98% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS se disent irrités par les prises de position de pseudo-experts internationaux qui interviennent dans le dossier calédonien. Ils ne sont que 2% à dire que cela ne les irrite pas. Notre question du jour, trouvez-vous juste de payer plus cher l'électricité pour participer au sauvetage d'Enercal? Si vous trouvez que c'est juste, vous tapez 1. Sinon, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 31-46. A noter encore que les communes de Point-d'Imier, Canala et Wailou sont visées par un arrêté d'interdiction de vente d'alcool à compter d'aujourd'hui et jusqu'au 8 septembre. Un arrêté qui répond à des demandes formulées par ces communes elles-mêmes et nourries du constat, je cite, de troubles à l'ordre public et faits de délinquance constatés par des PV de gendarmerie. L'État entend ainsi prévenir la nouvelle survenue de troubles de même type qui seraient aggravés par la consommation abusive d'alcool. Il est 17h58. Nous marquons une première pause dans ce journal avant de développer la suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie. On parlera d'abord de cet incendie survenu ce midi dans un atelier mécanique du lycée Jules Garnier. A tout de suite.
Jusqu'au 30 septembre, lancez la roue de la chance Excellium avec Total Energy. Participez et gagnez des cartes cadeaux carburant. Un pack Apple avec un iPhone 15 et son AirPod Max. Un VTT électrique. Et plein d'autres cadeaux pour une valeur totale d'1 million de francs. Alors rendez-vous dans votre station Total Energy préférée pour lancer la roue de la chance et gagner des super cadeaux. Plus d'infos sur Facebook, règlement disponible en station.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
Info soir, Isabelle Pelletier.
Les locaux du lycée Jules Garnier victimes d'exactions. Vers midi aujourd'hui, un véhicule a été incendié dans l'atelier de maintenance automobile des sections professionnelles. Fort heureusement, le feu ne s'est pas propagé aux 40 autres véhicules qui se trouvaient dans le hangar. L'incendie a pu être rapidement maîtrisé grâce aux pompiers qui se trouvaient à proximité de l'établissement après avoir éteint un feu près du Quendou Beach. On écoute Michel Lehoulier, le proviseur du lycée Jules Garnier.
C'est un véhicule qui est sur un pont de garage et les composants électriques du pont ont commencé à fondre, les quatre luminaires au-dessus ont fondu, mais sinon ça ne s'est pas propagé aux autres véhicules et aux bâtiments. Les pompiers ont réussi à éteindre avant. Là, je vous dis, 40 véhicules pleins d'essence, si ça s'était propagé à d'autres véhicules, ça aurait pu être catastrophique, quoi, parce que là, il y avait énorme. La police scientifique fait ses analyses cet après-midi, les services de pompiers aussi, donc, et on pense fortement que c'est criminel, puisque le feu n'est pas de nature électrique ni rien, ça a été mis dans une voiture qui sert de travaux pratiques. Une voiture dans un hangar, elle ne prend pas feu toute seule, quoi. Je mène une enquête, j'ai déjà interviewé 6 élèves, mais on a le signalement d'un individu, donc on essaye, par rapport à la description physique et vestimentaire, de voir qui c'est et qui a été vu sortant de l'atelier en courant, donc on pense que c'est l'auteur, en fait. En tant que chef d'établissement, notre crainte la plus forte, c'est que lors des actions, il y ait des blessés, voire des morts. Parce que là, aujourd'hui, ça aurait pu se terminer comme ça, quoi. Donc, on a peur par rapport à ça.
Des propos recueillis par Sarah Mégery. Après la maîtrise de l'incendie, le proviseur a prévenu le vice-rectorat et la vice-présidente du gouvernement en charge de l'enseignement, Isabelle Champmoreau. Ils se sont rendus sur place pour faire un état des lieux et apporter leur soutien à l'établissement. Un jeune de Saint-Louis placé en détention provisoire pour 3 vols avec armes. Il a été arrêté mardi dernier et une information judiciaire a été ouverte pour 3 carjackings commis au Mont-d'Or entre le 29 juin et le 6 juillet. Gilles Ménage.
Ce jeune homme de 23 ans nie les faits qui lui sont reprochés, mais le procureur indique que des indices permettent de le relier à ces 3 vols de voiture puisque 2 victimes l'ont formellement reconnu. Le premier vol a eu lieu le 29 juin. Vers midi, un véhicule de société est volé au niveau du pont de Laty. Le chauffeur a été braqué par 3 individus, dont un a pointé un fusil en sa direction en lui demandant de descendre de la voiture et en menaçant de le tuer. Le 5 juillet, vers 11h, toujours au niveau de Laty, une autre voiture était volée, cette fois par 2 individus, l'un ayant menacé le conducteur avec un gourdin en bois et l'autre en possession d'un sabre d'abattis. Ils ont sorti le chauffeur et lui ont donné des coups de pied. Enfin, le 3e carjacking a eu lieu le lendemain vers 15h45. À l'Ave Maria, une voiture de société avec 2 personnes à bord a été dérobée à l'approche d'un barrage. Un individu cagoulé a ordonné au conducteur de descendre en le tirant par le bras, tandis qu'un complice a tiré un coup de feu en l'air avec son arme de chasse. Présenté au juge d'instruction, il a été mis en examen du chef de vol avec arme et placé en détention provisoire. Les investigations se poursuivent sous l'autorité du magistrat instructeur.
Vous écoutez Info Soir, il est 18h02.
Un renfort précieux pour les habitants du Mont-d'Or Sud. Le centre médical de la Corniche va accueillir dès demain un médecin et une infirmière de la Sécurité civile nationale. Ils vont assurer les permanences de consultation tous les week-ends, Gilles.
C'était un problème de plus pour les habitants du sud de la commune, l'absence de médecins le week-end. Déjà complètement coupé du reste du territoire depuis le 13 mai dernier, contraint de faire face à de nombreuses pénuries et aux difficultés de transport vers Nouméa, les 15 000 habitants du Mont-d'Or Sud n'avait pas non plus de médecin le samedi ni le dimanche. Une situation évidemment très inquiétante qui vient de trouver une solution, donc grâce au dispositif mis en place par l'État et la province sud. Un médecin et une infirmière de la sécurité civile sont arrivés ce matin à l'espace de santé de la Corniche, accueillis sur place par le commissaire délégué en province sud, Grégory Lecru.
La situation au sud du Mont-d'Or et la situation des habitants méritent une particulière attention. On travaille tous les jours, on réfléchit tous les jours avec les collectivités, avec la mairie, avec la province pour améliorer cette situation, ce quotidien difficile pour les habitants. Alors aujourd'hui, on inaugure entre guillemets un centre de consultation non programmé afin de renforcer l'offre de soins, en particulier le week-end. Ce centre de consultation non programmé armé par des médecins qui sont venus nous renforcer sur le territoire, des médecins de la sécurité civile ou des sapeurs-pompiers de Paris. Il s'agit pour eux de traiter des cas signalés par la régulation, par le 15, ou des personnes qui sont confrontées à un besoin, et ça permet d'éviter d'attendre le lundi.
La province sud, partenaire de l'opération, a fait l'acquisition de cet espace santé de la Corniche, qui est donc mis à disposition des médecins et des habitants du sud de la commune. Un moment évidemment très important pour la présidente de la province sud, Sonia Baquet, qui était présente au Mont-d'Or Sud ce matin.
Les habitants du Mont-d'Or Sud, finalement, à partir de 14h, ils n'ont plus de médecins le samedi. Et donc, ils passent le week-end à espérer qu'il ne se passe rien de grave et d'urgent parce qu'il n'y a personne sur le Mont-d'Or Sud. On parle pudiquement de perte de chance quand on parle de santé. C'est-à-dire que concrètement, il y a des endroits de Nouvelle-Calédonie où on est, concrètement, si on est en danger, on ne peut pas être soigné. Et c'était le cas ici au Mont-d'Or Sud. Et on est en République française, on ne peut pas se permettre d'avoir des citoyens qui ne sont tout simplement pas en capacité d'être soignés parce qu'on ne leur offre aucune réponse médicale. Là, effectivement, c'est un partenariat province-sud-État, mais on travaille beaucoup et bien avec la mairie du Mont-d'Or. Le maire a récemment écrit pour demander au président de la République la route que vous le savez, je défends depuis très longtemps. Je serai à Paris la semaine prochaine et j'en reparlerai évidemment. On a besoin d'être tous ensemble parce que ce qui se passe au Mont-d'Or Sud pour les 15 000 habitants qui habitent après le verrou de Saint-Louis, est difficilement supportable et de plus en plus difficilement supportable. On a des familles qui sont divisées, des enfants qui ont du mal à accéder aux cours. On avait une perte de chance d'un point de vue médical, ça va aller mieux avec ce dispositif, mais clairement il faut qu'on s'en occupe ensemble.
Un renfort d'autant plus bienvenu que la situation des patients est particulièrement compliquée depuis 3 mois, c'est ce qu'explique le docteur Delaunay qui gère le centre médical pendant la semaine.
Il était très attendu par la population. Je pense qu'effectivement, il est très bienvenu. Il va combler une situation qui est vraiment inacceptable pour les Mondoriens, hein, qui est cet isolement, y compris des structures de soins spécialisées, des hôpitaux, des structures d'urgence. Et donc, oui, c'était très attendu par les gens.
C'est une situation, quand on parle de perte de chance, à laquelle vous êtes confronté tous les jours?
Oui, absolument. Et c'est poignant. C'est quelque chose pour nous de terrible de travailler dans cette situation, de voir des patients à qui on demande de faire des examens ou qui ne veulent pas les réaliser parce qu'ils sont trop âgés, trop vieux, trop fatigués pour monter dans le bateau, qui sont pas assez malades pour prendre l'hélicoptère. Donc on a des situations qui sont des entre-deux et on en a tous les jours beaucoup. Et ça constitue vraiment une perte de chance pour ces gens parce qu'ils vont attendre et puis on ne sait pas ce qui va se passer pendant ce temps-là. C'est notre lot de tous les jours d'assister à ça un peu de façon un peu impuissante. Et ça, il n'y a que le rétablissement d'une circulation par la route qui pourrait ramener les choses à la normalité.
Les permanences de consultation non programmées à l'espace santé de la Corniche seront donc assurées dès ce week-end par le médecin principal Joachim, qui arrive de l'unité d'instruction et d'intervention numéro 1 de la sécurité civile de Nogent-le-Rotrou, c'est en Eure-et-Loir.
Le périmètre de notre mission, c'est d'assurer les consultations non programmées, c'est-à-dire des consultations qui ne peuvent pas être anticipées ni retardées, mais qui ne relèvent pas de l'urgence vitale. Par ailleurs, le but de cette centre de consultation non programmée, ce n'est pas de concurrencer le réseau de médecine générale qui est déjà installé, mais de le renforcer les week-ends, donc le samedi et dimanche, de 8h à midi et de 13h30 à 18h.
C'est une mission qui vous tient à cœur particulièrement ?
Oui, tout à fait. On travaille dessus depuis notre arrivée et on est heureux de pouvoir offrir ce soin à la population.
Le docteur Joachim, accompagné par une infirmière de la Sécurité civile nationale, assurera donc désormais les permanences du samedi et du dimanche à l'espace santé de la Corniche.
Merci Gilles Ménage. 23 cabinets de médecins libéraux ont été détruits ou brûlés depuis le début des exactions. Si la situation s'est apaisée au cours des dernières semaines, un cabinet a encore été récemment cambriolé et les médecins qui exercent dans les CMS de Brousse sont toujours régulièrement victimes d'agressions ou d'exactions. Un constat qui aggrave le manque d'attractivité préexistant aux émeutes et qui conduit au départ annoncé d'ici la fin de l'année à une centaine de médecins avec à la clé des spécialités qui viennent à manquer et une quasi-pénurie de cabinets dans l'agglomération et certains quartiers de Nouméa. On écoute les précisions du président de l'Ordre des médecins, Bruno Calandreau.
Il est évident que les médecins ne vont pas se réinstaller dans le quartier où se situe leur cabinet qui a brûlé, ou pas tous, ou peu nombreux seront-ils. Hein, et puis les spécialistes, pour beaucoup, sont venus dans Nouméa, auront du mal à repartir vers la banlieue de Nouméa ou vers les communes autour de Nouméa. L'ophtalmologie, la dermatologie, la rhumatologie, la gastro-entérologie, qui est des spécialités déjà en difficulté, les choses ne sont pas améliorées. Et c'est sûr qu'on avait monté avec l'hôpital, la clinique, les centres de dialyse, une cellule d'attractivité pour voir comment on pouvait faire venir des médecins en Calédonie. Et pour le moment, je dirais que beaucoup de gens sont dans l'attentisme. Certains médecins ont décidé de partir ou partiront d'ici la fin de l'année. Et le problème, c'est que beaucoup de médecins qui avaient envisagé de signer des contrats reportent leur arrivée ou même l'annulent complètement, hein, puisqu'effectivement, ils ne savent pas comment la situation sera quand ils arriveront.
Un constat d'une pénurie de spécialités déjà dressé hier sur notre antenne par le docteur Mathieu Séry, médecin au CHT. Ces départs représentent un peu plus de 10% des 850 médecins présents sur le territoire en exercice ou à la retraite. Autre problème soulevé par le docteur Calandreau, la baisse du nombre des consultations médicales liées au transport, mais aussi à la modification de l'aide médicale gratuite.
L'activité dans les cabinets médicaux a beaucoup diminué, du fait en particulier des problèmes de transport. Hein, et les patients viennent moins consulter parce que c'est compliqué pour eux de venir chez le médecin. Et il y a aussi des choses qui sont importantes par rapport à l'aide médicale. Les patients ont tendance à ne plus venir consulter parce qu'ils ne savent pas très très bien finalement si l'aide médicale continue à exister, si elle est arrêtée. Hein, et certains patients ne vont même pas renouveler leur carte d'aide médicale. D'une part, ils ne vont pas renouveler leur carte, mais d'autre part, ils ne vont pas consulter. Ça, c'est aussi quelque chose qui est assez inquiétant, hein, pour des patients longue maladie dont on sait très bien que s'ils ne vont pas consulter, les risques d'aggravation sont présents.
Le président de l'Ordre des médecins, Bruno Calandro, qui appelle donc les patients qui ont une maladie chronique à venir consulter pour éviter toute aggravation de leur pathologie. En bref, des experts de l'ANSSI sont sur le territoire. L'autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information assiste Lagoon après la cyberattaque dont le fournisseur d'accès Internet a été victime. Le travail de reconstruction des réseaux se poursuit. Le musée maritime dans la tourmente. La structure a rouvert ses portes le 12 juin dernier sous le coup de subventions publiques et privées, soit en pause, soit arrêtées. Une situation qui pourrait devenir critique. Les 8 salariés du musée maritime sont en effet au chômage partiel depuis la crise déclenchée le 13 mai. L'établissement a fermé ses portes durant un mois avec des moments d'intense inquiétude. Les précisions de Valérie Vattier, la directrice du musée.
Nous avons rouvert en mode dégradé, c'est-à-dire qu'au lieu d'ouvrir 6 jours par semaine comme on le faisait habituellement, nous sommes aujourd'hui à 3 jours d'ouverture par semaine, donc mercredi, vendredi et samedi. On a perdu évidemment les touristes, les croisiéristes, les scolaires, non pas parce qu'ils veulent pas venir, mais parce qu'il n'y a plus de transport en fait. Donc pour nous, c'est bien sûr des recettes en moins, c'est du dynamisme en moins. L'année dernière, on était autour de 1200 visiteurs par mois. Là, on est à 100 quoi, à peu près. Donc vous imaginez bien que c'est compliqué par rapport aux recettes qui sont censées arriver. Il faut rappeler quand même que le musée est associatif, donc il vit de ses recettes, mais aussi des subventions. Donc c'est vrai que côté subvention, c'est très compliqué aussi, sachant que on a eu pour l'instant la subvention de la province sud qui avait été versée en mars. Et là, on vient tout juste d'avoir celle de la ville et de la mission aux affaires culturelles de l'État. Mais il nous manque encore la subvention du port et du gouvernement. Et si on n'a pas cette subvention, on sera obligé de mettre la clé sous la porte d'ici la fin de l'année. Donc c'est quand même assez grave.
Le musée maritime qui accueille une nouvelle exposition temporaire intitulée L'Iphigénie, un premier convoi vers la Nouvelle-Calédonie. Elle est à voir au rez-de-chaussée du musée jusqu'au 19 octobre prochain, les mercredis, vendredis et samedis de 9h à 16h. 18h12, nous marquons une seconde pause dans ce journal avant de développer nos pages festives et sportives. On se retrouve après une page de pub.
Si vous êtes prêt à faire plaisir à toute votre famille sur 3 générations, alors vous êtes prêt à profiter des journées plaisir Gémeaux. Jusqu'au 23 août, moins 30% pour 3 articles achetés, moins 40% pour 4 et jusqu'à moins 50% pour l'achat de 5 articles ou plus.
Gémeaux, taillé pour la vie de famille.
Offre valable sur une sélection d'articles textiles signalés par une étiquette rouge, voire conditions en magasin.
RRB.
Nos boîtes mail Lagoon étant inaccessibles pour le moment, nous vous informons que vous pouvez envoyer vos mails à l'adresse suivante. rrb@rrb.nc. Informations, publicité, programmation, avis de décès, avis et communiqués, une seule adresse. rrb@rrb.nc. RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite du journal, Isabelle Pelletier.
Et avec notre programme festif, des festivités qui reprennent au fil des semaines, l'occasion de se changer les idées, avec notamment un spectacle au Centre culturel du Mont d'Or. Il se déroulera demain, Charlotte Coulson.
Stoppée depuis le 13 mai, la saison culturelle reprend peu à peu. Demain, la compagnie Micmac présentera au Petit Théâtre de Boulary son spectacle Rondez la Lune, un spectacle de marionnettes et de chants qui sera donné de 10h et à 16h. Des horaires adaptés à la période actuelle, explique Paul Barry, chef du service de la culture de la ville du Mont d'Or.
Nous, on a dû revoir un petit peu nos façons de diffuser des spectacles, puisqu'on essaye de limiter les diffusions en soirée pour pouvoir permettre à la fois au public, mais aussi aux techniciens, de pouvoir rentrer chez eux avant le couvre-feu. Donc là, on a 2 diffusions qui sont programmées, une en matinée à 10h et une autre en fin de journée vers 16h. Et donc voilà, on a dû un petit peu, comme on dit, se réadapter.
Et les réservations peuvent s'effectuer sur le site internet du Centre culturel du Mont d'Or.
Toujours demain, le Conservatoire de musique et de danse de Nouvelle-Calédonie propose un concert de musique classique.
Un concert en 2 parties dirigé par Vincent Adrania, intitulé « Piano, cordes et chaussons » qui se déroulera à 16h. L'occasion de découvrir l'univers d'Ernest Chausson, un compositeur de la seconde moitié du 19e siècle. Écoutez Vincent Adrania.
Ce samedi à 16h, il va y avoir la pièce maîtresse en fait du concert, ça va être Le Concert de Chausson. C'est une pièce qui s'appelle Le Concert et le compositeur s'appelle Chausson. Son prénom c'est Ernest et en fait c'est un très grand compositeur français qui était très reconnu et très apprécié de son vivant. Et cette pièce, elle est assez particulière, assez singulière parce qu'elle est écrite pour un piano, pour un quatuor à cordes et pour un violon solo. Donc c'est une formation de 6 personnes et c'est assez délicat à mettre en place et assez délicat pour trouver toujours les musiciens disponibles pour la jouer. Donc là, on est très content de pouvoir présenter cette pièce en deuxième partie.
Vincent Adragna qui anime tous les samedis l'heure classique sur RRB. Et les réservations pour le spectacle se font sur itiquet.nc.
Demain, Koné, les Calédoniens pourront découvrir un village océanien avec un marché de produits vivriers, Charlotte.
Oui, plusieurs communes du Nord seront sur place pour présenter leurs produits artisanaux. Des activités seront proposées pour les petits comme pour les grands.
Dimanche, direction l'arène du Sud de Païta qui accueillera de nouveau sa braderie, c'est de 9h à 13h.
Les Calédoniens pourront profiter de nombreux articles à bon prix et d'un mini-marché sur place avec une nouveauté, une scène ouverte où chanteurs, comédiens ou poètes pourront performer.
Et vous pourrez également faire des achats pour soutenir la cause animale en vous rendant à la brocante de la Spank à Coutio ce dimanche.
De 7h à 11h, les bénévoles de la Spank seront présents pour accueillir les visiteurs, à retrouver sur place de la vaisselle, des vêtements, des livres, des jouets, mais aussi des plantes.
Merci Charlotte. Et notez enfin que demain, c'est la période des soldes qui commence. Les Calédoniens pourront donc profiter des bonnes affaires jusqu'à dimanche 22 septembre. Et comme chaque vendredi soir sur RRB, place à l'agenda sportif du week-end. On démarre avec du football, la deuxième journée du championnat de France de Ligue 1 et c'est le PSG qui ouvre une nouvelle fois le bal, Léo Fichou.
Les Parisiens reçoivent Montpellier au Parc des Princes, début de la rencontre demain matin à 5h45. Dimanche, l'OL doit se rattraper après sa défaite 3-0 à Rennes la semaine dernière. Lyon affronte Monaco. Dimanche toujours, Lille accueille Angers et Le Havre se déplace à Saint-Étienne. La journée se terminera dans la nuit de dimanche à lundi avec Nantes-Auxerre, Nice-Toulouse, Strasbourg-Rennes et Marseille-Reims.
Football toujours, ça joue aussi dans les autres championnats du Big Five.
En Angleterre, d'abord, la deuxième journée démarre demain avec Brighton-Manchester United à 22h30, heure de Nouméa. De son côté, le champion titre Manchester City recevra Ipswich dans la nuit de demain à dimanche et Arsenal affrontera Aston Villa. En Espagne, les deux clubs de Madrid doivent se reprendre puisque les deux équipes n'ont pu faire mieux qu'un match nul contre Villarreal et Mallorca lors de la première journée. Dans la nuit de dimanche à lundi, l'Atlético reçoit Gérone et le Real accueille Valladolid. Le Barça jouera contre l'Atlético de Madrid. Et en Italie, on aura le droit à un beau duel entre le Torino et l'Atalanta Bergame. Le Milan AC affrontera Parme, l'Inter recevra Lecce et la Juventus de Turin jouera à l'Elias Vérone. Et puis on termine ce tour d'Europe en Allemagne avec la première journée ce week-end de la Bundesliga. Le champion titre, le Bayern Leverkusen donnera le coup d'envoi de la saison demain matin sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach.
Vos stations Shell et Pacific, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Les sports automobiles et le retour après un mois d'arrêt de la Formule 1.
Les pilotes ont rendez-vous aux Pays-Bas et on peut s'attendre comme chaque année à une marée orange venue soutenir Max Verstappen. Sur ces terres, le Néerlandais doit se rattraper après sa quatrième place en Belgique lors du dernier Grand Prix. À noter que l'an passé en Hollande, Pierre Gasly était monté sur la troisième marche du podium. Esteban Ocon avait lui terminé 17e. Le départ du Grand Prix des Pays-Bas sera donné à minuit, heure de Nouméa, dans la nuit de dimanche à lundi.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainé par Shell et Pacific. Shell, un nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2024. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Et du golf maintenant à la deuxième étape de la FedEx Cup qui se poursuit ce week-end.
Après le Northern Trust la semaine dernière, place au BMW Championship. Ils ne sont plus que 50 prétendants au titre et parmi eux, Mathieu Pavon. Après la première journée, le Français est 34e. Il a rendu une carte de plus un au-dessus du par. Pour se qualifier pour la troisième et dernière étape de la FedEx Cup, il faut qu'il termine parmi les 30 premiers.
Du tennis et du padel ce week-end sur le territoire et en métropole, Léo.
Et on démarre en métropole avec le championnat de France à Blois. 3 Calédoniens sont engagés. Enfin, il en reste plus que 2 puisque malheureusement c'est déjà terminé pour Grégoire Thiollier en 4e série. Rodolphe Longjaret et Mélodie Dalle sont eux en 3e série. Ils entrent dans la compétition en 16e de finale ce soir. Les résultats des Calédoniens sont à retrouver sur la page Facebook de la Ligue Calédonienne de tennis. Du tennis toujours, mais sur le territoire cette fois. Au Receiving, on joue ce week-end week-end les phases finales du tournoi Open du club. C'est Titouan Guenot et Alexis Beaujean qui jouent le dernier quart de finale ce soir. La finale aura lieu dimanche à 15h. Et on termine les sports de raquettes avec du padel, toujours au receiving. Le club organise son tournoi P25 hommes. 16 équipes sont engagées. Le tournoi démarre ce soir et se terminera demain en fin d'après-midi. Autre tournoi de padel toujours, mais féminin cette fois, c'est le P25 du TC Montcoffin. 28 équipes féminines sont engagées demain et dimanche. Début des matchs demain matin à 8h.
De la natation aussi au programme ce week-end. Des Calédoniens sont en Nouvelle-Zélande pour le championnat Open.
La compétition a démarré mardi pour les 8 jeunes cagous du CNC et de Dumbéa. Il reste encore quelques épreuves avant que la compétition ne touche à sa fin demain. Les courses des jeunes Calédoniens sont à suivre en direct sur la chaîne YouTube Swimming New Zealand.
Et on part en mer avec de la voile et la quatrième étape du Challenge Croiseur Sirius Solar NC demain et dimanche.
Demain après-midi et dimanche matin, effectivement, les équipages ont rendez-vous en baie des Citrons pour des parcours techniques et des parcours côtiers. Une compétition qui, on le rappelle, est organisée depuis le début de l'année par le Cercle Nautique Calédonien.
Et on termine cet agenda sportif, Léo, avec de l'équitation ce week-end sur le territoire.
Le Yala Ranch accueille dimanche le CSO fédéral, le premier concours de saut d'obstacles depuis le début des émeutes. Au programme, des épreuves préparatoires et des épreuves amateurs. Si vous souhaitez participer, les inscriptions sont encore ouvertes. Vous pouvez le faire directement sur place et c'est également ouvert au public.
En route pour Paris, découvrez les athlètes calédoniens sélectionnés pour les Jeux paralympiques avec le CTOS, l'Agence nationale du sport et la BNC.
Les Jeux paralympiques, c'est dans seulement 6 jours et ils sont 3 Calédoniens à y participer. On vous les a présentés, on vous les présente encore dans nos éditions. Après Vitolio Cavacava mercredi et Pierre Ferbank hier, on fait la connaissance aujourd'hui de Félicien Siapo, Léo.
Âgé de 21 ans seulement, Félicien Siapo est un jeune espoir du para-athlétisme français et surtout calédonien. Polyvalent, il était spécialisé dans le lancer de javelot, mais il s'est finalement tourné vers le sprint. Un choix qui se comprend puisque ses performances sur 100 mètres lui permettaient plus facilement de se qualifier pour les Jeux paralympiques et donc de viser l'or. Son palmarès, il a décroché le bronze au championnat d'Europe 2021 en lancer de javelot. Il a également remporté 2 médailles d'or en 2022 aux Jeux européens de la jeunesse en Finlande, toujours en javelot mais aussi sur le 100 mètres. Et donc, comme je le disais, pour ces Jeux paralympiques à Paris, il est qualifié sur le 100 mètres dans la catégorie T44. Depuis quelques semaines, sa préparation s'est intensifiée pour faire de son rêve une réalité, décrocher la médaille d'or.
À l'approche de cette compétition, j'ai l'esprit des guerriers, des champions. Et là, je me prépare en ce moment à l'INSEP pour décrocher la médaille d'or. C'est ça l'objectif. L'entraînement, il est dur, mais c'est à travailler dur qu'on progresse. Là, en ce moment, on travaille le cardio, l'amplitude, tout ce qui est mouvement des bras. Mais là, on travaille plus sur le départ, sur la poussée du départ.
Félicien Siapo a participé en fin d'année dernière donc aux Jeux du Pacifique, une mise en jambe avant la compétition de l'année, les Jeux paralympiques. Le natif de Nouméa s'habitue petit à petit à l'ambiance des grands stades.
Ah, je suis préparé à ça, je suis préparé à tout maintenant, à tout donner, à tout déchirer, à montrer que dans le Pacifique, il y a des champions qui se cachent, mais il faut aller les chercher. Après, avec les Jeux du Pacifique, c'est un peu comme si c'était le monde des paras, ça forge aussi le mental. Parce que c'est difficile aussi d'être concentré avec un public bruyant, encourageant, mais sinon ça va.
Le sport occupe une grande partie de sa vie, mais en dehors des entraînements et des compétitions, Félicien Siapo cuisine et aime aussi donner de son temps à des associations locales.
Moi, ma passion, c'est la cuisine. J'aime bien faire la cuisine et tout. Après, ça dépend, j'aime tout cuisiner. Hein. Mais moi, le truc que j'aime bien, c'est du riz et des œufs, c'est ça. Sinon, c'est riz, sardines, c'est simple. Mais pendant longtemps, j'étais bénévole à la Vallée du Tir, à la Banque Alimentaire. J'étais là-bas, j'ai venu être là-bas, ils m'ont beaucoup appris. Ça m'a servi à quelque chose d'être là-bas.
Félicien Siapo entrera dans la compétition dans la nuit du samedi 31 août au dimanche 1er septembre. À 1h, heure de Nouméa, le Calédonien participera aux séries du 100 mètres. La finale aura lieu le lendemain dans la nuit du 1er au 2 septembre à 4h30 du matin.
En route pour Paris, découvrez les athlètes calédoniens sélectionnés pour les Jeux paralympiques avec le CTOS, l'Agence nationale du sport et la BNC.
Voilà, merci à Léo Fichou pour ce programme sportif. Il est 18h24, c'est presque la fin de ce journal. On va maintenant passer à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
La météo avec vous, Nicolas.
Oui, alors cette nuit, sur l'ouest, le ciel sera bien étoilé. Ailleurs, quelques nuages bas circuleront, plus nombreux sur la façade est et en fin de nuit sur l'île des Pins et Marais. Sur l'ouest, le vent faiblira et laissera place à quelques brises de terre. Ailleurs, l'alizé de secteur est mouillera progressivement entre 10 et 15 nœuds. Les températures minimales seront fraîches avec 11 à 16 degrés à l'intérieur des terres et 16 à 20 degrés sur le littoral. Demain matin, sur le nord-est, la pointe sud, l'île des Pins et les Loyautés, des passages nuageux pourront donner quelques faibles ondées. Ailleurs, le soleil dominera. Sur l'ouest, le vent sera faible au lever du jour puis se renforcera autour de 10 nœuds de sud-est. Ailleurs, il sera d'est-sud-est, souvent compris entre 10 et 15 nœuds.